Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Cinq femmes chinoises de Chantal Pelletier. Chers auditeurs, bonjour. Beaucoup d'entre nous ont été nourris des superbes personnages de femmes de Pearl Buck, d'Anne Souyin. Les livres sur cette Chine et ses femmes occupent des rayons entiers de la littérature occidentale. On était loin, dans l'ancienne Chine. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est la lecture d'un roman-reportage sur la Chine actuelle, que l'on regarde tous, fascinés et effrayés à la fois. Dans son ouvrage, Chantal Pelletier nous propose, à travers cinq portraits de femmes sur les 50 dernières années, d'entrer dans cet univers, mais avec un regard occidental sur cet empire du milieu.
Ciel dans l'eau, poisson dans les arbres. Xiu, née le 7 avril 1957 à Suzhou, province de Jiangsu. Xiu est enrôlée dans l'école de gymnastique à 4 ans et demi pour sa souplesse et sa pugnacité. Papa et maman la voient une fois par semaine. Ils sont fiers. Leur fille a été distinguée par la révolution mère de tous.
Elle n'est pas la meilleure des 60 élèves, garçons et filles, mais la plus disciplinée.
On lui reproche de n'être pas assez menue. On l'aimerait plus fine, plus déliée, et on l'étire avec des poids pour l'allonger. Elle a droit à des portions moindres que celles des autres pensionnaires, dont aucun n'est pourtant nourri à satiété. Il faut être léger pour supporter l'entraînement. Parfois, sa tête tourne après qu'elle a marché longtemps sur les mains. Elle serre les dents quand la peau de ses doigts s'ouvre, mais ne pleure pas, ne se plaint pas. Elle virevolte sur le tapis, perchée sur la poutre, pendue aux barres asymétriques, impeccable, nourrie par le mouvement et l'obéissance. On ne peut critiquer sa façon de se recevoir après avoir traversé le cerceau et roulé sur le caoutchouc. Elle se tend comme un arc, bras à la diagonale des épaules, ventre concave, côte saillante, ses lèvres en écart maximum sur les dents, ne forme pas vraiment un sourire. Le visage de poupée, figé et sans âge, reste fermé, les yeux froids, pas le moindre frémissement. Quand elle va chez ses parents, elle ne manifeste aucune gaieté et ne se sent pas chez elle. Elle préfère l'école, les 10 heures d'entraînement, le rythme des sauts, le crachotis de la musique, l'ordre militaire des dortoirs. Elle s'ennuie quand sa mère l'emmène sur un vélo-carriole où elle entasse papiers et cartons. Xiu n'aime ni les cris de sa mère appelant aux ordres, ni ces gens qu'elle croise renfrognés et pitoyables. Son père travaille dans une imprimerie si sombre qu'elle a pitié de lui. Elle lui montre qu'elle sait lire. Il se prétend content, ce dont elle se moque. Elle a hâte de rejoindre l'internat. Lui manque le martèlement des pieds nus sur les tapis de sol, les jambes et les bras qui s'agitent dans les maillots de coton, les peaux chaudes, les brochettes de filles calibrées, cheveux tirés dans des queues de cheval et des couettes. Les années filent. Son estomac réduit ne réclame plus. Xiu apprend à avoir de moins en moins faim. Elle reste petite. Peut-être trop de muscles qui tirent sur ses os les retiennent de pousser. À 7 ans, on lui en donne 5. Et on augmente ses rations. Pas à volonté, bien sûr, mais elle mange comme les autres. Elle a 9 ans. 10. Les jeunes sont dans la rue pour la grande révolution. La plupart des écoles sont fermées. Pas la sienne qui compte seulement moins d'élèves, moins de professeurs. « Mesure ta chance !» lui répète sa mère. Et elle redouble d'efforts. Des pyramides que composent 15-20 élèves, elle est un pilier. Solide, pieds ancrés dans le sol, ventre serré, elle vibre à peine alors qu'elle porte 2 filles, 3 filles superposées sur les épaules. Queue de cheval bien lissée, biceps crampés, elle bande ses poignets douloureux. Elle aime ses bracelets blancs. « Mes bijoux, » dit-elle. Son corps a une dureté ligneuse. Parfois une articulation se luxe, un muscle se déchire. Elle contient la douleur. Elle a l'habitude. La souffrance est un noyau qui la sécrète et la constitue. Régulièrement, ils partent une 20aine dans les camions bâchés pour célébrer les fêtes du parti, l'anniversaire de la Révolution. De l'école, elle est celle qui marche le mieux sur les mains. Elle surprend en effectuant des sautillements en appui sur un seul bras. Minuscule bond d'insecte qu'elle perfectionne. Elle aime l'idée de vivre la tête en bas, en équilibre et à l'envers. Occupée, très occupée, elle avance sur des rails, protégée du désordre du dehors. Au nouvel an 1968, Xiu passe quelques jours chez papa-maman. Le temps lui paraît long. Dès la première journée, dans la pièce sombre et crasseuse où ils vivent avec son frère de 6 ans. Elle déteste sa mère éplorée, son père contusionné. Il a désobéi, ce qu'elle ne peut imaginer. Mais il faut être bête, pense-t-elle, en resserrant les bandes de coton autour de ses poignets. Bête. Elle compte les heures qui lui restent avant d'échapper à cette famille qui n'est pas la sienne. Un matin, les pleurs du petit frère et des cris sauvages lui font pousser la porte de la courette. Des ombres casquetées aboient. 2 coups de fusil claquent. Trou de rouge la veste de son père qui tombe face contre terre, comme serti dans la boue. Un dos d'animal sur lequel volait un pan de tunique usée. C'est l'image qui lui reste de son géniteur. Des voisins l'emmènent quelques jours chez eux dans une pièce plus obscure que celle de ses parents. Elle ferme les yeux, se concentre sur le triple saut arrière qu'elle était en train d'apprendre. Sa mère vient la rechercher, la prévient qu'elle est renvoyée de l'école de gymnastique. Elle ne comprend pas comment elle peut vivre ailleurs. Autrement, sans l'ordre, sans les rails, dans la crasse, là où est inscrite partout la désobéissance du père. Sa mère lui coupe les cheveux pour les vendre en cachette et les roule dans un papier. Xiu serre les dents en regardant disparaître ce qui est davantage qu'une tignasse, sa force et ses espoirs. Dans la rue, on lui jette des fruits blettes, on tire ses cheveux ras, on l'insulte. Elle fait partie d'une famille de traîtres. L'angoisse a remplacé la douleur et la souffrance est plus vive. Elle ne sent plus ses muscles, ses articulations, ses tendons. Elle est comme dénoyautée. Elle attend plus d'un an avant de retourner à l'école. Là, on la punit souvent, pour rien, pour l'exemple. On lui laisse des corvées de nettoyage. Pendant les séances de gymnastique, elle se plaît à faire des envieux en enchaînant roues, pirouettes et sauts carpés. Elle amuse la galerie en signant son nom de la main droite, en équilibre sur la main gauche, jambes nouées en tailleur par-dessus sa tête. On lui laisse peu l'occasion de jouer les acrobates, mais ses exploits lui valent d'obtenir la paix.
Résumé des pages qui suivent cet extrait de la vie de Xiu. En 1974, elle part à Shanghai avec sa mère et son frère et travaille dans une conserverie. À 19 ans, elle rencontre un docker. Elle aime sa force et ses gestes rugueux. Il est déporté dans les mines de charbon de la Chine du Nord. Il en revient un an plus tard terriblement amaigri, les poumons malades et alcoolique. Elle est enceinte quand elle l'épouse et accouche à l'usine, une fille, Daxia. Elle subit des coups, mais un jour elle décide qu'elle ne terminera pas sa vie dans la misère. À la coopérative, elle gagne une formation à la mécanique. Elle devient chauffeur-livreur. Un matin, elle s'envole. Elle se cache dans un train. Une liasse de billets dans sa culotte. Elle n'a pas peur. Elle dort 3 jours et 3 nuits dans un camion avec des moutons. On la plie dans une caisse en bois dont on cloue le couvercle. Elle est à Hong Kong. Sa connaissance du corps lui permet de s'imposer dans la technique des massages. Elle dirige un salon, puis un second. Elle apprend à s'habiller, se farder, perd des kilos. Elle est la meilleure publicité pour son entreprise. Elle peut reprendre contact avec sa fille, mais leur relation sera difficile.
Quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de singes. Daxia, fille de Xiu, née le 11 septembre 1979 à Pudong, district de Shanghai. À 2 ans et demi, Daxia a peur de la tête rougeaude percée d'un trou qui braille. Elle lèche d'un coup de langue la morve qui lui coule aux lèvres. Elle n'a jamais approché pareille bête. Une fois, elle a vu des vaches, elles ne faisaient pas de bruit. Sa mère lui secoue l'épaule quand elle ose avancer la main. « Ne touche pas le bébé !» La chose a une mère dans la cabane d'à côté. Daxia fourre de la bouillie entre les lèvres de Mai, pousse doucement. Elle prend l'habitude de ce premier travail. Le monstre est moins laid, plus ressemblant à quelqu'un. Daxia lui parle, lui explique, lui raconte des histoires, met le joujou debout sur un tissu à fleurs, le fait trottiner sur l'herbe boueuse, lui apprend à parler, tue les moustiques qui l'approchent, le dispute, l'empêche de gober les abeilles. Mai est dégoûtante. Elle met tout dans sa bouche, glisse entre ses lèvres un ver de terre qui se tortille, le croque comme un bâton de sucre. Daxia la tape, la traite de petite larve. Les deux gamines n'ont qu'une 20aine de mois de différence. Mais Daxia aime jouer la maman et met la poupée. Dans un bâtiment derrière les entrepôts de Pudong, Daxia lit, écrit, chante, participe aux séances de gymnastique. Elle compte vite, manie le boulier avec une dextérité remarquée. Elle raconte tout ce qu'elle sait à Mai, qui boude. Ses discours ennuyeux l'embêtent. Daxia et Mai sont souvent seuls à courir, à patouiller dans la boue. Les mères travaillent, jardinent, cuisinent. Les pères rentrent tard, mâchurés. Daxia n'aime pas le sien. Il parle fort et sent de la bouche. Quand elle le regarde, elle attrape de sa mère un mélange de peur et de colère qui lui spasme le ventre. Et elle se sauve jusqu'au fleuve, entre bleu et sable, suie et éteint. Le Huangpu est un ciel et les bateaux des oiseaux de couleur. Daxia a 11 ans. Là où scintillaient des rivières, des échasses jaunes tournent contre le ciel dans des bruits de moteurs. Daxia, Mai, les pères, les mères, affaires entassées dans des carrioles, grimpent dans un bateau, traversent le Huangpu, approchent les buildings, leurs fenêtres haut perchées. Daxia étouffe dans le cauchemar que son père réinvente presque tous les jours, pas seulement quand elle dort. Sa grosse main qui se dresse, la mer qui se recroqueville, et la paluche qui s'abat aussi sec et retombe, dure, claque la joue, la tête. Elle en a marre de la rengaine, aimerait être sans parents. Sa mère, elle en a pitié, et son père, elle préfère ne pas y penser. Et à s'empêcher de le faire, forcément, elle y pense. À sa pogne qui tombe sur sa mère. À 12 ans, elle est suffisamment grande se jette sur le salaud, le griffe, le mord, et la main dressée s'immobilise. Grosse bestiole à cinq pattes. Daxia écarte sa mère, se plante devant son père tout près. Elle le fixe, féroce. Elle n'a pas peur qu'il la cogne, elle veut bien. Le père regarde sa main rouge, sa main morte, pauvre bête, et disparaît dans l'alcôve vaincu. Daxia laisse sa mère plantée là. Elle a vu un jour des photos d'athlètes féminines à la force invincible. C'est ce qu'elle veut, une vie d'homme, un travail d'homme, des muscles d'homme, pour que son père se prosterne à ses pieds et bouffe la poussière. Un soir, la mère de Daxia ne rentre pas de la coopérative de légumes. Le lendemain non plus. Daxia espère qu'elle ne reviendra pas. Elle préfère ne plus être contaminée par sa peur qui lui crampe le ventre, ne plus avoir sa charge sur son dos. Daxia et May sont presque femmes. 17 ans, 15. Daxia, plus petite, plus robuste, moins coquette que May, camoufle son corps dans des cotons usés, travaille parfois jusqu'au matin, emplit sa tête, entraîne sa mémoire. Elle préfère l'univers de la géométrie, des maps-mondes et des idéogrammes à celui des hommes et des femmes. Un soir, la table du petit-déjeuner est telle que Daxia l'a laissée en partant à l'école. Dans l'alcôve, son père est froid sous les draps. Daxia replie les bras du mort, s'assoit près de lui qui sourit pour la première et dernière fois, paisible. Son visage usé est presque beau. On ne peut croire qu'il a que 42 ans. Elle remplit les papiers, situe mal Béhigne, le lieu de naissance de son géniteur, là-bas, au nord, à des milliers de kilomètres. Et la Chine lui semble encore plus vaste que ce qu'elle a appris des livres. Un monde entier dont elle est la progéniture délivrée de mère et de père. Elle trouve une photo du défunt jeune, le visage noirci. Un panneau indique le nom d'une mine dont il parlait quand il était sous. Le châtiment auquel il prétendait avoir survécu pour Xiu. Daxia n'en saura pas davantage et n'y tient pas. Sans qu'elle demande, le frère de sa mère paie l'équivalent de 3 pensions mensuelles pour les frais d'enterrement. De la part de Xiu. Il n'est pas présent au cimetière. Daxia et May sont seuls, au milieu des ouvriers de la coopérative, sous la pluie qui coule mort à la terre de ses aiguilles argentées. Personne ne pleure, même pas sa fille. Le jour de ses 22 ans, Daxia enregistre des informations débitées par celle qui, assise en face d'elle dans un café, lui paraît une lointaine connaissance venue rembourser ses dettes. Sa mère. Déguisée, horripilante de vantardise, Xiu est trop maquillée, peut-être pour effacer ses hématomes d'autrefois. Daxia calcule l'argent qu'elle peut obtenir de sa génitrice pour servir ses ambitions, tout en jetant des coups d'œil à la télévision qui, perchée au mur derrière sa mère, montre et remontre l'effondrement de 2 tours new-yorkaises. La coïncidence entre les retrouvailles avec Xiu et la catastrophe américaine et pour Daxia un signe en sa faveur. Le dernier acte du spectacle que l'Occident impose au monde depuis des décennies annonce le temps de la revanche.
Résumé des pages qui suivent cet extrait de la vie de Daxia. Ensuite, c'est Hong Kong, pont entre tradition et modernisme. Daxia est prise par ce monde nouveau dont elle aime tout. Elle avance, essaie de s'intégrer aux Européens dont elle envie la grâce, la légèreté. Cependant, sa mère et May lui manquent. Embauchée par une amie de sa mère, elle travaille. Travaille, infatigable. En 2006, elle découvre une autre province lointaine qui n'est pas la Chine qu'elle connaît. Son ascension sociale et professionnelle devrait la satisfaire, mais est-ce suffisant?
Dans cette première émission, nous avons fait la connaissance de deux des portraits des cinq femmes, dont les destins individuels se croisent, proposés par l'auteur Chantal Pelletier. À ce stade, il serait peut-être intéressant de vous faire part de quelques réflexions fournies par Chantal Pelletier elle-même lors d'une rencontre à Angers. Ce livre est né après de nombreux séjours en Chine, notamment à Shanghai et Pékin, qu'elle a vu se transformer. Elle ne prétend pas décrire toutes les femmes chinoises, mais seulement des femmes urbaines dont les parents ont déjà migré une première fois. Un peu comme elle, dit-elle, dont les parents avaient quitté la campagne pour une vie meilleure à Lyon. Ce sont aussi des femmes au type universel. Il y a la coquette, l'ambitieuse, la révoltée, la concrète, l'intellectuelle. En cela, elles sont nos semblables. Elle ne prétend pas non plus faire un tableau figé de cette Chine qui change à toute vitesse. C'est pourquoi elle l'a bien datée, jusqu'en 2012, et en situant le début du temps de la revanche, selon Daxia, à 2001, l'effondrement des tours new-yorkaises, et le dernier acte du spectacle que l'Occident impose au monde. Cette lecture a été préparée par Denise et Annie. La lecture a été faite par Denise, Anne, Annie, Armel. La musique est extraite du film Spy Game. À la technique, Vincent, à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez